Quelqu'un me disait récemment qu'elle avait une crise dans sa pratique et donc elle demandait à son maître, elle parlait avec un maître, pas son maître, un maître. Et le maître lui disait, qu'est-ce que c'est le zen pour toi ? Alors, dans la discussion que j'avais avec elle, elle ne m'a pas donné sa réponse. On a parlé d'autre chose. Mais cette question m'est restée. Je me demandais. Enfin, je ne me suis pas vraiment demandé. Cette question flottait. Et donc, quand ça flottait comme ça, qu'est-ce que c'est le zen pour moi ? La première réponse, c'est ma vie. Et ça peut être pris dans un contexte, que d'un sens. Quelqu'un qui, je sais pas, Rafael Nadal ou Roger Federer, on lui demande qu'est-ce que c'est le tennis pour toi, il va dire ma vie. C'est ce qu'il fait tout le temps. C'est ce qui. Ou on va demander à, je sais pas. Eric Clapton ou Miles Davis ou je sais pas, qu'est-ce que c'est la musique pour toi ? Ma vie. Donc on peut prendre ma réponse comme ça. Qu'est-ce que c'est le zen pour toi ? Ma vie. Et ce n'est pas faux. Seulement, c'est une compréhension matérialiste de la question et de la réponse. Car quand cette réponse surgit, ce n'est pas du tout matérialiste. Et je sais que je répète ça tout le temps. La pratique, c'est la vie, et la vie, c'est la pratique. Je sais que c'est broken record. Je dis ça tout le temps. Je ne suis pas le seul. C'est quelque chose qu'on entend souvent. On l'entend souvent parce que c'est vrai. C'est ça. Mais ce n'est pas ce qu'on croit. Ça donne beaucoup de malentendus, de difficultés, on va lutter, on va essayer de chercher qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, comment il faut vivre, quelle est la bonne façon de pratiquer, quelle est la bonne façon de vivre. Quelle est la bonne façon d'avoir une relation avec une relation intime, amoureux, une relation avec un maître, une relation avec des collègues, une relation avec des autres membres du sangha. Toutes ces questions viennent avec. Et si tout simplement on réalise que notre vie c'est la pratique et la pratique c'est notre vie, toutes ces questions n'ont plus de sens. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas questionner, qu'on ne va pas avoir un questionnement, ça ne veut pas dire qu'on sait tout. Au contraire. Alors, une partie de ça, il y a plusieurs choses qui m'ont agité cette semaine d'une façon agité, pas agité, tourmenté, mais qui figurait, qui revenait comme trame dans ma vie pendant la semaine, depuis que j'étais au Portugal, pendant que j'étais au Portugal, après, etc. Et même avant, parce que il y a une histoire où le jeune écrivain américain F. Scott Fitzgerald, est-ce que vous voyez qui c'est, Fitzgerald, quand il était jeune homme, et il arrive à Paris, parce que cette époque-là, pour les écrivains américains, Paris c'était le paradis. Et il croise à la Coupole ou à la Closerie des Lilas, ou je ne sais pas, quelque part à Montparnasse, où tous ces artistes et écrivains traînaient à cette époque. Il voit à table Joyce, qui est en train de manger, avec sa femme et avec d'autres gens. Fitzgerald dit, incroyable, c'est Joyce, c'est son grand. Il vénère Joyce comme Dieu. Et donc, il va, quelqu'un lui dit, mais vas-y, présente-toi, il est sympa, Joyce, c'est pas un problème. Et donc, il va là-bas, il se met à genoux à côté de Joyce, qui est à table. Et il dit, est-ce que je suis un jeune écrivain américain, est-ce que je peux embrasser le main qui a écrit Ulysse? Et Joyce lui regarde et lui dit non, parce que ce main a fait beaucoup d'autres choses aussi. Alors, c'est très intéressant comme enseignement, n'est-ce pas? En quoi que, et juste ce soir, en la discussion avec Michel-Ange, je dis oui, Jaco Beck est mort. Oui, Jaco Beck, c'était incroyable. Jaco Beck, c'était un pilier. Jaco Beck était un pionnier, on dit. Ouais, c'était vraiment quelqu'un. Jaco Beck. C'était dans notre conversation, c'était pas comme ça, mais. Ce qui est derrière, c'est ça. Et on a tous fait ça depuis qu'elle est morte, je ne sais pas quand, il y a la semaine dernière. C'est devenu une sainte. Et non. C'est comme Fitzgerald qui demande d'embrasser le main de Joyce. Je dis non. Ce main a fait beaucoup d'autres choses aussi. On ne sait pas à quoi il fait référence, mais. Imaginer. Le message, c'est disons, c'est une bonne réponse. Ce qui me fait penser à il y a longtemps, quand je commençais à enseigner, je n'avais pas enseigné depuis longtemps, enfin un certain temps, mais pas très longtemps, c'était avant ma transmission, et c'était pendant un week-end à Montreuil, et j'étais censée faire un talk, et je m'assois là, tout le monde est prêt, je chante, parce que normalement il y a un chant, tout est... Oui, c'est tellement subtil, c'est incroyable, c'est tellement rare d'entendre ce qu'il va dire. Il y a un chant, tout le monde est là, préparé pour tous les trucs, etc. Et je commençais à dire quelque chose, je ne me souviens pas quoi. Mais au bout de 3 ou 4 minutes, j'ai dit, mais je ne peux rien dire. Il n'y a rien à dire. Et c'était comme ça. C'était enregistré. Il y avait tous ces gens qui attendaient quelque chose. Il y avait mon teacher qui était là, Roshi qui était là. Et j'ai dit, je ne peux rien dire. Et j'ai fait comme ça. Et quand, dans ce contexte-là, quand la personne qui donne le talk fait comme ça, c'est fini. Et de nouveau, on faisait des sonner, de nouveau un chant, les quatre vœux, prosternation, tout un beans pour sortir avec des cloches et tout. Je sors et je cours. Je suis horrifiée. Je cours au fond du jardin. Je pleure. Je suis dévastée par ce que j'ai fait. Et la personne qui était mon jisha, c'était Tania, que certaines parmi vous connaissez. Elle court après moi. Elle ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais elle essaie de me soutenir. Je n'arrêtais pas de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai répété, je ne pouvais rien dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Et puis Roshi arrive. Et elle aussi, elle vient, elle écoute, je répète, je suis désolée, Roshi, je suis désolée, je ne pouvais rien dire, il n'y avait rien à dire. Et tu as fait. Oui, je sais. Je ne peux pas dire que ça m'a... Ça... J'étais divisée, disons que je... C'était pur, quand je disais, il n'y a rien à dire, c'est vrai. C'était pas du tout inventé, c'était pas une protection parce que je ne savais pas quoi dire. Ou... Non. Mais très vite, quelque chose d'autre est venu, je rentrais dans le matériel, dans le matérialisme. Il faut dire quelque chose, il faut donner quelque chose, il faut répondre à cette demande. Il y a tout un contexte. Je restais dans l'aspect semain qui a écrit Ulysse. Il ne s'agit pas de ça. Si je restais avec cette « il faut dire quelque chose », je m'écartais de la vie. La pratique, c'est la vie. Je faisais une petite enclave qui n'est pas vie, et c'est quelque chose de spécial, et il faut le dire. C'est ce main extraordinaire qui a écrit Ulysse. Ça nous amène, ce genre de logique, ce genre, c'est très, on le connaît tous. Et moi-même, j'étais tiraillée entre les deux. Le fait que je m'écroule au fond du jardin en pleurant, c'est que j'étais tiraillée parce que ces deux aspects étaient tellement fortes. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se laisse emporter par l'aspect matérialiste. Et j'ai lu une histoire, une métaphore extraordinaire aujourd'hui, où on disait, imagine un bateau où on est tous dessus, et pour faire tourner ce bateau, pour faire vivre ce bateau, il faut de l'énergie, il faut de l'électricité, etc., etc. Et les gens qui sont en première classe sur ce bateau, ils ont chaud. Et ils veulent avoir beaucoup de lumière. Ils veulent les sèche-cheveux parce qu'ils veulent que leurs cheveux soient d'une certaine façon. Et ils veulent les fours micro-ondes, disons, et les réfrigérateurs. Et donc, pour faire leur climat, faire marcher leur clim, pour faire marcher leur sèche-cheveux, réfrigérateur, etc., il faut qu'ils prennent de cette énergie qui fait tourner le bateau. Et les gens, et ça c'est un problème, parce que le bateau ne peut plus tourner comme il faut. Et les gens qui sont dans la deuxième classe veulent être dans la première classe. Et donc, ils sont en lutte constante pour trouver un moyen d'être dans la première classe pour bénéficier de la clim, des micro-ondes, des sèche-cheveux, etc., etc. Et donc, eux, ils font travailler, ils font... ils essayent de trouver des combines pour pouvoir monter dans la première classe, pour avoir plus d'argent pour être dans la première classe. Souvent, ils font, et les gens en troisième classe, ils travaillent pour tout le monde, plus ou moins. Eux, ils n'ont pas d'espoir d'être dans la première classe, mais ils en rêvent aussi. Et c'est souvent eux qui crèvent, parce qu'ils bossent tout le temps, etc., etc. Et finalement, comme toute cette énergie est engagée à faire tourner la clim et puis essayer de monter en première classe, etc., etc., le bateau finit par s'écouler. Donc tout le monde meurt. Alors, c'était une histoire, je trouvais saisissante. Évidemment, c'était une métaphore pour notre planète et l'interconnexion et tout ça. Mais le fait est que si on réalise vraiment que le zen, c'est ma vie, on ne va pas se comporter comme ça. On va pas, ça ne veut pas dire que... Alors là, tout de suite, je dis on ne va pas se comporter comme ça et on a le main qui a écrit Ulysse. C'est... Je vais arriver quelque part, je ne vais plus faire les conneries, je vais être parfaite, il n'y aura plus l'ombre, c'est Djoko Beck, la sainte. Ce n'est pas ça. Peut-être c'est justement, quand on réalise que le zen, c'est ma vie, on intègre ces ombres. On intègre notre désir de monter de la troisième ou deuxième classe. On va s'occuper plutôt de ce désir. On va regarder. On va voir que les autres, ils ont ce désir aussi. On va voir combien, avec ce désir d'escalader sur le dos des autres, on crée des difficultés pour nous-mêmes, pour les autres et pour nous tous. Et que, en fait, tout le monde veut juste se sentir bien et aider. On va voir que les autres, ils ont ce désir aussi. On va voir combien, avec ce désir d'escalader sur le dos des autres, on crée des difficultés pour nous-mêmes, pour les autres et pour nous tous, entre guillemets, bien. Tout le monde veut la même chose. Et quand on réalise, parce que c'est pas juste ma vie, on voit que c'est le même, c'est la vie de tout le monde et que c'est la même chose pour tout le monde. Alors, c'est très facile d'être accaparé par le matérialisme. C'est très facile d'être accaparé, on a la possibilité d'avoir la climatisation, donc on va l'avoir. J'ai eu un collègue aujourd'hui qui me disait qu'il va au Portugal au mois d'octobre. Donc il me donnait les conseils, etc. J'ai dit ce que je savais, plus ou moins. Et puis il m'a dit, il a un bébé qui va avoir 6 mois à cette époque. Il dit, oui, on va louer une voiture et de toute façon, il y aura la climatisation dans la voiture, donc on n'aura pas de problème. Je trouvais que c'était curieux. au mois d'octobre. Il n'y a pas besoin de climatiser, c'est du clim dans sa voiture. Je trouvais que c'était curieux. Au mois d'octobre, il n'y a pas besoin de climatiser, c'est du clim.